Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'actu avec vous. Et à la une, le sprint final dans 6 heures. Maintenant, la campagne sera terminée. Les candidats à l'élection présidentielle jettent donc leur dernière force dans la bataille. Des meetings pour les uns, des marchés pour les autres. RTL les suit sur le terrain. Et puis, nous irons aussi à la rencontre de ces anonymes qui vont faire l'élection dimanche. Ceux qui préparent les bureaux de vote, ceux qui se battent contre l'abstention. Les autres titres de l'actu dans votre journal à suivre. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'horreur encore en Ukraine. Une gare bombardée à Kramatorsk, dans l'est du pays, au moins 50 morts, dont 5 enfants.
Et à 18h15, on se penchera sur ces atrocités en série. Comment récolter des preuves, comment traquer les barbares? Le colonel Emeraud, qui a enquêté sur des crimes de guerre, nous racontera et on lui demandera, Vladimir Poutine sera-t-il un jour inquiété?
Dans ce journal aussi, des erreurs dans les montants pré-remplis, la campagne de déclaration de revenus en ligne est suspendue. Et puis elle est celle qui a dénoncé l'organisateur des attentats du 13 novembre. À distance, sa voix modifiée. Sonia a témoigné aujourd'hui au procès des attaques.
À 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes positives, c'est la promesse, près de chez vous avec Marion comme chaque vendredi.
Avec un bus pour inciter à voter à Marseille, la guerre des ruches. À Roubaix, une recette made in Top Chef au bord de la Loire.
À 19h15, ils refont la France et donc aussi la campagne. Amandine Bégaud et ses camarades de la presse étrangère et puis des points météo tout au long de l'émission. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir
à tous. La tendance pour demain?
La tempête Diego va se décaler dans le courant de la nuit vers l'Allemagne pour un retour au calme complet à partir de demain matin, le tout avec une température moyenne de 13 degrés.
On détaille tout ça dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et à chaque jour, son lot d'atrocités en Ukraine. Aujourd'hui, c'est une gare de l'est du pays qui a été touchée par 2 missiles.
L'est que les autorités ukrainiennes ont appelé à quitter face à la menace d'une vaste offensive russe depuis plusieurs jours. Donc, cette gare de Kramatorsk, elle était très fréquentée par des civils cherchant à fuir la zone.
Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Ce soir, le bilan de cette attaque est donc très très lourd. Au moins 50 morts, dont 5 enfants.
Oui, un bilan terrible. 50 civils qui étaient à la gare principale de Kramatorsk. Point de rassemblement, vous le disiez, pour les personnes qui veulent partir vers l'ouest de l'Ukraine. Des dizaines de personnes étaient donc présentes ce matin. Les précisions de Pavlo Kirilenko, le gouverneur de la région de Donetsk.
2 missiles ont touché la gare vers 10h30 ce matin alors que les gens attendaient un train d'évacuation. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la région et des médecins de plusieurs villes ont été appelés en renfort pour s'occuper d'eux. Les Russes essaient de dire que les missiles sont tirés par l'armée ukrainienne. C'est faux. Ces missiles viennent de la Fédération de Russie. Mais la priorité pour le moment, c'est de s'occuper des blessés et des corps. Les Russes essaient de créer la panique dans la population. Ils savaient où viser et ils savaient que des civils étaient ici, dans la gare, pour évacuer la région de Donetsk.
Sur l'un des missiles russes retrouvés sur la pelouse près de la gare, une inscription « pour les enfants », une expression utilisée par les séparatistes pro-russes en référence à leurs enfants tués depuis la guerre du Donbass commencée en 2014.
Un récit de cette attaque, Émilie Beaujard. Merci Émilie.
Le président Zelensky a dénoncé le mal sans limite de la Russie. De son côté, dans un tweet, Emmanuel Macron a dénoncé une attaque abominable. Emmanuel Macron, invité ce matin de RTL à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le président candidat qui voit son avance sur Marine Le Pen diminuer dans les sondages. Pour autant, assure-t-il, ni fébrilité, ni excès de confiance d'ailleurs à l'approche du scrutin.
Je me considère toujours comme ayant à conquérir. Et j'ai d'ailleurs vécu comme ça, c'est les 5 années qui viennent de s'écouler. Je ne considère pas que les choses sont acquises. J'ai jamais été dans l'excès d'assurance. Je ne suis pas non plus dans la fébrilité. Je considère que ce que j'ai à faire, c'est d'abord de continuer à présider jusqu'à la fin. Et en même temps, comme vous auriez dit, puisque cette formule vous doit beaucoup, conquérir, convaincre, avancer. Et donc c'est comme ça que je fais. J'ai l'esprit de conquête plutôt que l'esprit de défaite.
Emmanuel Macron ce matin sur RTL avec Alba Ventura et François Langlais. Et avant le premier tour, cet appel de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux qui a renoncé à sa candidature, a appelé à voter Mélenchon pour barrer la route à l'extrême droite.
Alors pour les candidats, dernières heures vraiment de campagne et dans les bureaux de vote, dernier préparatif. Samuel Goldschmidt, vous êtes à Quédange sur Canner, c'est près de Thionville en Moselle. Un bureau de vote où tout est déjà en place.
Et oui, les 12 piles de bulletins sont soigneusement rangées impeccablement dans l'ordre de tirage au sort du Conseil constitutionnel. Et puis le maire Jean Kiffer est très méticuleux. La présidentielle, ça ne s'improvise pas, avec évidemment la vérification de l'urne.
Celle-là, on l'a depuis 2008.
De temps en temps, on rachète une urne ?
Absolument. Elle s'use, on la prête aussi aux écoles, on la prête aux collèges, aux parents d'élèves pour faire leurs élections. Donc, voilà.
Il y a les rideaux des isoloirs, le tampon pour marquer les cartes d'électeurs.
C'est la date du 10 avril.
Elle est déjà programmée.
Elle est programmée.
Et il y a une foule d'autres documents que l'électeur ne voit pas forcément.
Regardez tout ce qu'il y a à mettre dans le procès verbal.
Alors c'est des grandes feuilles A3 d'ailleurs.
Ça, je vous montre encore les délégués des candidats qui peuvent venir contrôler si le scrutin se passe bien. Ensuite, il y aura un procès verbal, le pointage au moment du dépouillement.
Voilà, le maire est très à cheval sur le code électoral. Et puis le kit sanitaire est cette fois très généreux. Le maire a reçu de gros stocks de masques chirurgicaux, des litres de gel hydroalcoolique. Il y a même des masques FFP2. Cela change vraiment des fameuses municipales de mars 2020.
Samuel Goldschmidt en Moselle pour RTL.
Eux, en revanche, ne voteront pas les quelques 4800 Français inscrits sur les listes électorales à Shanghai, en Chine. La faute au confinement mis en place il y a 2 semaines.
Autre campagne, aussitôt lancée, aussitôt interrompue. La campagne de télédéclaration des revenus a dû être suspendu aujourd'hui.
Exactement, à cause d'erreurs constatées par certains contribuables dans les montants de revenus pré-remplis. Cette campagne est donc suspendue au moins le temps de ce week-end, le temps de réparer ces erreurs. Après la contamination de produits Kinder à la salmonelle, les excuses aujourd'hui du groupe Ferrero qui reconnaît des défaillances internes. L'usine belge où ces chocolats ont été produits a été fermée par les autorités sanitaires.
Allez, petite pause et dans un instant, voix modifiée, image floutée, le témoignage d'un témoin clé au procès des attentats du 13 novembre. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h08, la suite de votre journal dans RTL Soir au 109e jour du procès des attentats du 13 novembre. Un témoignage très particulier aujourd'hui.
Oui, celui d'un témoin clé connu sous le pseudonyme de Sonia. C'est elle qui a permis de localiser l'organisateur des attentats Abdelhamid Abaoud, permettant l'assaut de Saint-Denis quelques jours plus tard. Nicolas Burnand, vous suivez son témoignage pour RTL. Témoignage par écran interposé pour lui permettre de conserver son anonymat.
Oui, une ombre apparaît sur les écrans, voix robotique, Sonia témoigne derrière un paravent. Le soir du 15 novembre, cette femme accompagne une amie qu'elle héberge, Asna Aïd Boulassen. Celle-ci doit rejoindre son cousin, caché à Aubervilliers, au pied d'une autoroute. Nous sommes 2 jours après les tueries, un homme sort d'un buisson. Sonia ne reconnaît pas tout de suite qu'il s'agit d'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur du 13 novembre. Le terroriste lui serre la main, décline spontanément son identité. Je l'ai trouvé inhumain, un regard froid. Livide, se rappelle Sonia, qui n'a pas oublié ses baskets oranges. Le terroriste lui avoue qu'il est l'auteur des attaques, lui dit toute sa haine pour les mécréants. Je me suis alors figé, j'étais écœuré, poursuit-elle. Le Belge cherche une planque, il la menace avant de disparaître. Quelques heures plus tard, Sonia appelle la police qui ne la croit pas. Elle insiste, elle finit par reconnaître formellement Abaoud devant un agent des services de renseignement. Sonia vit aujourd'hui sous le statut de témoin protégé. Elle parle de ses nuits sans sommeil et du désespoir d'être devenue une autre personne. Est-ce que je mérite cette vie-là aujourd'hui par rapport à toutes les victimes, se demande la femme de 48 ans. Oui, peut-être. C'est un sacrifice à faire, mais il est lourd, précise celle qui n'a jamais regretté son geste. Les parties civiles saluent son courage. Quelques applaudissements retentissent au fond de la salle. L'ombre de Sonia vient de disparaître des écrans.
Un témoignage et compte-rendu d'audience a signé Nicolas Burnand pour RTL. Le classement sans suite de l'enquête pour agression sexuelle visant Jean-Jacques Bourdin. Les faits remontant à 2013 et dénoncés par son ancienne collègue de BFM Télé, Fanny Agostini, sont prescrits. Décision sans surprise pour l'avocat du journaliste, maître Christian Saint-Palais.
J'accueille cette décision avec satisfaction, mais vous savez aussi que depuis 3 mois, nous disons que les faits sont en tout état de cause prescrits et aucune poursuite n'est possible. Il a passé 3 mois à subir des attaques. Vous savez très bien que beaucoup ont exploité cela. Vous savez très bien qu'il a été suspendu d'antenne. Évidemment, aujourd'hui, quand on lui dit les affaires sont classées, il n'y aura pas de suite judiciaire, ce que nous savions. Mais c'est tout de même un soulagement et l'espoir que la vie va pouvoir recommencer plus sereinement et qu'on va pouvoir tourner une page.
L'avocat de Jean-Jacques Bourdin avec Guillaume Chiez pour RTL du côté de la plaignante. Sa représentante estime aussi que ce classement sans suite n'est pas une surprise. L'arrestation au début d'après-midi à Toulouse de l'homme soupçonné d'avoir placé un engin explosif sans détonateur dans une cathédrale. L'homme est connu des services de police et a déjà été par deux fois déclaré pénalement irresponsable.
Allez, il mérite plus que jamais son surnom d'enfant terrible du foot français. À peine 3 mois après son arrivée à Lille, et il en a connu des clubs, Atem Ben Arfa est déjà sur le départ.
Oui, quasiment un club par an ces dernières années. En tout cas, le LOSC a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une procédure à son encontre. La semaine dernière, le joueur s'en était pris verbalement à son entraîneur après le match contre Bordeaux. Pour le coach Jocelyn Gourvennec, il ne pouvait y avoir d'autre issue.
C'était difficilement compréhensible, et pour moi peut-être encore plus parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur, vraiment. Le président a une règle, on ne touche pas au club, on ne touche pas à l'équipe et on ne touche pas à l'entraîneur. Il est impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer, je vais dire, l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Le club a engagé une procédure qui est en cours. La seule chose que je puis dire, pour moi, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a rien ni personne qui est au-dessus du LOSC. L'éthique et l'engagement sur la relation humaine est très importante à mes yeux. Je peux vous faire une confidence, j'ai démarré ma carrière de joueur à 16 ans, en professionnel. Je viens d'avoir 50 ans, donc ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, j'avais jamais vu ça. Après, chacun se comporte comme il veut, j'ai pas de leçons à donner. Simplement, moi, je suis entraîneur, je sais ce que je veux, ce que je veux pas, et j'avance comme ça.
Voilà, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, à qui Atem Ben Arfa a répondu sur les réseaux sociaux. Toi, ton problème, c'est l'incompétence, on ne joue pas la relégation, a-t-il écrit. Et puis après les débordements d'hier en marge du match OM PAOK Salonique dont on a beaucoup parlé, hein, et bien l'UEFA annonce ce soir l'ouverture d'une enquête disciplinaire, enquête qui vise les deux clubs.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Claire, c'est un peu mieux. En même temps, est-ce que ça pouvait être pire?
Difficilement,
après
c'est
cette
vrai.
Journée très arrosée.
C'est vrai que dit comme ça, c'est difficile de faire pire. En effet, on a la tempête Diego qui a pas mal sévi aujourd'hui, avec d'ailleurs des pointes à plus de 120 km/h, hein, comme par exemple au niveau du Pays de la Loire ou encore au niveau du Massif Central. Mais dans le courant de la nuit, elle va progressivement s'évacuer en direction de l'Allemagne pour un retour au calme complet dans la matinée de samedi. Mais tout de même, quand même, un ciel relativement chargé encore en matinée du sud-ouest en remontant vers le nord-est, donc un ciel chargé porteur d'averses avec des pluies beaucoup plus fréquentes, hein, de l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne, et puis une limite plus neige, hein, située au niveau des reliefs de l'Est, donc entre 500 et 800 mètres, et du côté des Pyrénées, sera de 1000 mètres. Par contre, dans l'après-midi, eh bien, ça sera vraiment une très belle amélioration, encore quelques petites averses, mais de manière espacée, plutôt éparse, encore vers l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, là encore en remontant vers les Ardennes. À l'ouest, par contre, de très belles éclaircies vont pouvoir se développer. Le soleil, quant à lui, sera présent dès la matinée en direction de la Méditerranée, mais au prix du vent qui va encore souffler fort, avec des pointes de plus de 110 km/h pour les caps les plus exposés de la Corse. Et donc enfin pour les températures, attention quand même aux gelées le matin, surtout pour la moitié nord, entre 0 et 4 degrés, 5 à 13 degrés pour la moitié sud. Et donc dans l'après-midi, il faudra compter entre 13 et 17 degrés du sud-ouest à la Méditerranée et de 9 à 13 degrés partout ailleurs.
Merci Claire.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, votre brigade RTL s'interroge, est-ce que la SNCF a tenu sa promesse? En ce jour de départ en vacances pour la zone B, les petits chanceux, nous nous penchons sur le sujet qui fâche, l'appli pour réserver ses billets de train. Vous savez, l'appli qui donne mal au crâne. Souvenez-vous, il y a 2 mois, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était interrogé sur ces bugs sur RTL.
Février, mars, les choses seront résolues. Et je remercie d'ailleurs les clients pour toutes les remontées qu'ils nous font, parce que grâce à eux, on va l'améliorer, cette application.
Février, mars, on est le 8 avril, les choses seront résolues, disait-il. Est-ce qu'il a tenu parole? On va poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Est-ce que ça y est, l'appli SNCF marche parfaitement?
Alors parfaitement non, il y a toujours des bugs Julien, même si franchement ça va mieux qu'au début. Mais les commentaires négatifs sont toujours nombreux sur les réseaux sociaux, problèmes d'affichage, problèmes lors de l'achat. Tout n'est toujours pas encore au point. Il manque par exemple aujourd'hui toujours l'affichage des prix sur un mois pour choisir, vous savez, le train le moins cher, hein, du coup sur les prochains jours. Tout cela devrait bientôt arriver d'ici l'été, nous dit-on.
Mais pendant ces deux mois passés, là, la SNCF n'a pas travaillé sur l'appli ?
Alors si, tout de même, hein, les principales fonctions qui ne marchaient pas, comme le bouton payer, c'est important tout
ah
de même.
Oui, ça peut aider.
Exactement, ou le QR code des billets qui apparaissaient comme frauduleux ont été réparés. La SNCF nous assure avoir réalisé 150 correctifs depuis le lancement en janvier dernier. C'est plus d'une mise à jour par semaine, évidemment, pour l'application. D'ailleurs, sévèrement critiquée car jugée trop sombre, vous l'avez vu sur votre portable tout à l'heure, eh bien, elle aura désormais un mode plus clair d'ici le mois de mai. Et on pourra aussi afficher, par exemple, la composition des trains.
Avec autant de bugs, est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui réservent autrement ou même qui prennent d'autres moyens de transport pour éviter de passer leur nerf sur le téléphone ?
Eh bien ça, oui, la nouvelle application a énervé beaucoup de gens et du coup, eh bien certains sont vraiment allés voir chez les sites concurrents comme Trainline par exemple. L'application a tout simplement doublé ses ventes de billets SNCF et Ouigo lors du lancement de la nouvelle application SNCF Connect. Mais cela n'inquiète pas visiblement la SNCF qui dit ne pas avoir constaté de baisse dans ses ventes. 31 millions de billets se sont vendus depuis le lancement de SNCF Connect, c'était en janvier.
La brigade RTL avec Arnaud Touche ce soir pour RTL. Petite pause, ensuite RTL Soir va se pencher sur les crimes de guerre en Ukraine. Une gare bombardée, on vient de vous en parler dans le journal encore ce matin. 50 morts, dont 5 enfants. Ils tentaient simplement de fuir les combats. Est-ce que Vladimir Poutine paiera un jour devant la justice ? Le colonel Emeraud, qui a enquêté sur de tels crimes ces dernières années, sera notre invité juste après ça.
RTL Soir, avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir continue, bonne fin de semaine et on va malheureusement une nouvelle fois ce soir parler de l'horreur encore en Ukraine. S'agit-il de crimes de guerre ? Comment traquer les coupables ? Est-ce que Vladimir Poutine devra comparaître un jour pour nous éclairer notre invité maintenant ? Bonsoir colonel Éric Emeraud.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Vous êtes l'ancien patron de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Ce sont les gendarmes qui travaillent sur ces dossiers dans notre pays, ici en France. Et vous allez nous aider à ces questions, à répondre à ces questions qui s'imposent notamment après le massacre de Kramatorsk ces dernières heures. 50 morts dans le bombardement d'une gare bondée de réfugiés. Ça, par exemple, colonel, c'est un crime de guerre, viser des civils qui cherchent à fuir les combats.
Oui, tout à fait. En fait, le crime de guerre se définit de la manière suivante. Il faut déjà qu'il y ait un conflit armé international ou non international, c'est le cas. Ensuite, sous le chapeau, en fait, crime de guerre, vous avez tout un tas d'infractions. Donc, dans le cas présent, un responsable de régiment ne peut pas ignorer qu'une gare n'est pas un endroit où il va y avoir, en fait, des cibles militaires. Donc, à partir du moment où on tue des cibles, ça devient un crime de guerre.
Autre crime de guerre au pluriel présumé, les atrocités dans la banlieue de Kiev. Écoutez, si vous le voulez bien, ce document RTL. Aurélien a assisté à ces exactions. Ce Français a vécu un mois terré dans un sous-sol. Il séjournait lorsque la guerre a débuté chez ses beaux-parents à Hostomel. Écoutez ce document RTL.
Il faut dévoiler au monde ce qui se passe à 2500 km de nous, une boucherie. Moi, je l'ai vu sous mes yeux. Des gens mourir, je les ai vus. Des gens se faire tirer dessus, des maisons brûlées. J'ai vu toutes ces images. On voyait des Russes tous les jours, on voyait des tanks rentrer dans des jardins, des Russes tirer sur les gens dans les maisons pour pouvoir prendre part à la maison. On voyait des voitures partir avec des chiffons blancs, avec écrit enfant dessus, se faire tirer dessus. C'était ça toute la journée, c'était sans cesse. On avait des jumelles, on voyait à distance ce qui se passait dans la rue, notamment un soir où ça m'a assez choqué. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est partie avec les chiffons blancs et à ce moment-là, la voiture est partie et s'est fait cribler de balles. Et la voiture est restée là une semaine à l'arrêt sur le bord de la route parce que les civils s'étaient fait tuer à l'intérieur.
La justice française entendra lundi Aurélien. Elle a ouvert cette justice française plusieurs enquêtes pour crimes de guerre en Ukraine. Colonel, le témoignage d'Aurélien, c'est typiquement le genre de preuve, de récit dont les enquêteurs ont besoin.
Exactement. Il nous faut combiner en fait une succession d'indices et de témoignages, donc les éléments de preuve, comme on le disait, des photographies, des vidéos, des images satellites, des éléments de renseignement aussi qui sont recueillis par tous les services. Tout ça va converger vers une photographie assez nette de la situation. Et bien sûr, derrière, tous les témoignages comme celui qu'on vient d'entendre sont utiles.
Donc une délégation d'enquêteurs français va partir sur le terrain pour récolter des informations. Et puis il y a aussi, j'imagine, tout un travail technologique. Par exemple, à Boutcha, les Russes nient les exactions, mais on a des images satellites qui montrent que des corps de civils jonchaient déjà les rues au moment de l'occupation de la ville par l'armée russe. Vous vous servez de plus en plus de ces nouvelles technologies ?
Ah oui, tout à fait. Tout ce qui est, enfin, ce qu'on appelle maintenant open source intelligence. Donc, il est vrai que c'est difficile de nier parfois certaines vérités. Alors, bien sûr, on peut trafiquer les images, les photos, tout ça, c'est possible. On le sait très bien. Mais justement, une fois que tout ça a été mis en place, derrière, c'est corroboré par un volume important de témoignages. Et quand vous êtes à une centaine, ce qu'on fait au Rwanda, en fait, hein, quand on travaille sur des dossiers rwandais, on entend jusqu'à 80, 90, 100 personnes. Au bout d'un certain volume de témoignages, c'est difficile de pas avoir une vision assez précise de la situation.
C'est vrai qu'on voit la propagande russe aujourd'hui se mettre en place pour tenter d'offrir des vérités alternatives en quelque sorte. In fine, comment traduire devant la justice des soldats russes, des officiers russes dans les mois, dans les années à venir? Quelles conditions doivent être réunies pour pouvoir réussir à amener ces gens devant un tribunal?
Tout le travail qui est réalisé actuellement, c'est ce qui permet justement de matérialiser premièrement les faits, de rechercher les auteurs, comme ça a déjà été signalé, hein, puisqu'on parle déjà d'un lieutenant-colonel présent sur Boutcha. Donc au bout d'un moment, on a une vision claire du positionnement, si vous voulez, des différents régiments, des différentes batteries. Tout ça va être entre guillemets mouliné avec les témoignages, les photos. Enfin, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais on démarre bien sûr souvent de la scène de crime sur les cadavres. Des médecins légistes effectivement vont travailler là-dessus. Donc en fait, tout ça se combine en pour rentrer dans une procédure. Une fois que la procédure est aboutie, elle va être évidemment visée par des magistrats, lesquels derrière vont juger des transmissions sur d'éventuels mandats d'arrêt internationaux pour des recherches des individus qui ont commis ces atrocités.
On peut présumer que les investigations vont permettre d'établir la responsabilité d'officiers russes. Vous parliez d'un lieutenant-colonel il y a quelques instants. Est-ce que Vladimir Poutine peut être inquiété? Comment pourrait-il être inquiété? Il faudrait qu'on puisse établir qu'il a donné des ordres très précisément à son état-major pour mettre en place, on va dire, une série d'exactions?
Alors, il y a deux voies d'accès, en fait. Il y a celle qu'on a évoquée, des crimes de guerre, avec, on va dire, l'implication du supérieur hiérarchique. Donc, politiquement, on peut considérer qu'en étant en haut de la chaîne. Tout ça, c'est ce qui a été mis en œuvre et démontré à Nuremberg, hein. D'ailleurs, là, on est dans l'héritage de Nuremberg, hein, concrètement. Oui. Et puis, il y a la deuxième voie d'accès qui serait plus rapide, mais qui, malheureusement, bute systématiquement sur le Conseil de sécurité, c'est le crime d'agression, qui est la quatrième infraction sur laquelle peut travailler la Cour pénale internationale. Dans ce cadre-là, avec la mise en place d'un tribunal ad hoc, alors évidemment, tout le monde dit oui, c'est très compliqué, bien sûr, c'est très compliqué, mais quand si tous les États en fait poussent pour modifier un peu les choses, à ce moment-là, le crime d'agression est parfaitement légitime.
Et c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que Vladimir Poutine va s'en sortir, en quelque sorte.
En fait, l'idée, c'est déjà de fixer la pellicule, parce qu'on ne sait pas dans quelques années comment la Russie, comment le monde va évoluer. Donc, ouais. Ce qui est important là, c'est de faire le boulot. Et on verra dans 5 ans ce qu'il en sera.
Merci, colonel Éric Emeraud, de nous avoir éclairé sur ces crimes de guerre présumés en Ukraine. Ce soir, vous, l'ancien patron de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, ces gendarmes qui travaillent sur ces dossiers dans notre pays. Et vous publiez, c'est important, chez Plomb, La traque est mon métier. Très bon livre. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Merci à vous pour votre accueil.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, toute petite pause et dans un instant, RTL Soir va se poursuivre avec le sprint final. Fin de la campagne dans 5 heures et 30 minutes maintenant, 34 même pour être très précis. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. On va vous raconter dans un instant les ultimes déplacements juste après la pause donc. Déplacement à gauche notamment, c'est un peu tout le monde sur le terrain à gauche. À tout de suite.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
RTL.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h29 minutes.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous vous branchez à l'instant sur RTL, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité.
Au moins 50 morts, dont 5 enfants, bilan d'une frappe aujourd'hui sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. Attaque aveugle pour le chef de la diplomatie européenne. La Russie accuse Kiev d'avoir orchestré la frappe. L'Ukraine où la ville d'Odessa va vivre sous couvre-feu à partir de demain soir et jusqu'à lundi matin face à la menace justement de frappe de missiles. Et puis en Floride, le décollage d'une fusée SpaceX qui va emmener pour la première fois des civils à bord de la station spatiale internationale. Trois hommes d'affaires qui ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars vont y passer une semaine.
Merci Marion. Le temps pour demain, Claire?
Eh bien, ça sera encore un ciel assez chargé sur l'axe sud-ouest-nord-est, avec donc quelques pluies qui seront un petit peu plus fréquentes, surtout à l'est du pays. Limite plus neige hein, située au niveau des Alpes entre 500 et 800 mètres et 1000 mètres au niveau des Pyrénées. Partout ailleurs, de belles éclaircies qui vont se développer sur ton Méditerranée, mais au prix du vent qui va souffler encore très fort jusqu'à 100 km/h près de la Corse.
Merci Claire.
Présidentielle 2022, J-2.
Et donc, place au sprint final. Maintenant, la campagne s'arrête tout à l'heure à minuit et RTL vous raconte maintenant les ultimes forces jetées dans la bataille, les ultimes déplacements. Plusieurs candidats étaient encore sur le terrain cet après-midi. Alors, un point commun, ce sont tous, hormis Valérie Pécresse dans le Vaucluse, des candidats de gauche. Parce qu'on sait qu'à gauche, les indécis sont plus nombreux. Donc, déplacement en série pour tenter de convaincre Jadot, Hidalgo, Roussel, Poutou, Artaud ces dernières heures sous la pluie. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On voit notamment Yannick Jadot et Anne Hidalgo redoubler d'efforts face à des sondages en baisse. L'écolo, tout d'abord, était en visite à Lyon à la mi-journée.
Oui, on peut dire que cette dernière journée de campagne était à l'image de sa dernière semaine très, très chargée. Quasiment un déplacement par jour pour Yannick Jadot dans cette dernière ligne droite. L'occasion aussi de montrer l'écologie en action dans des grandes villes dirigées par des maires de gauche ou écologistes. Hier, il était à Nantes, on en reparlera dans un instant, mais donc à Lyon, il s'est affiché avec le maire de la ville, Grégory Doucet, un écologiste. Avec lui, il avait aussi la députée Delphine Bateau ou encore l'adjoint à la mairie de Paris, David Béliard. L'équipe de France de l'écologie, c'est comme ça qu'il a renommé son équipe des mousquetaires pour cette campagne et pour faire des belles images cet après-midi dans la ville. Ils se sont tous déplacés en bus. Oui, ils ont ensuite visité la plus grosse chaufferie biomasse de France qui alimente le chauffage urbain de toute la ville de Lyon. Un déplacement qui avait pour objectif de faire la promotion des énergies renouvelables.
Pendant ce temps-là, la socialiste Anne Hidalgo était sur un marché de sa ville, le marché populaire de Belleville dans l'Est parisien.
Oui, souvenez-vous, elle avait commencé sa campagne à Rouen justement pour casser cette image de parisienne. Finalement, c'est bien dans la capitale qu'elle la termine. Sous la pluie, c'est un symbole. On a pu la voir ce midi au contact des habitants, se prenant volontiers au jeu des selfies avec les clients et les commerçants sous les parapluies. Un dernier moment à la maison, en quelque sorte. Peut-être réconfortant parce qu'on sait que cette campagne, elle n'a pas été facile pour Anne Hidalgo. Dans notre dernier sondage BVA, elle est testée à 2,5% d'intention de vote. C'est très peu.
Alors, ces deux candidats, ils restent combatifs malgré ces intentions de vote. Yannick Jadot, lui, c'est moins de 5% dans notre dernier sondage BVA. Et pourtant, on sent qu'il tente de remobiliser son électorat. C'était très très clair. Il y avait vraiment des appels très très clairs hier en meeting à Nantes.
Oui, sur deux points. D'abord, Yannick Jadot, il ne veut pas de ce vote utile, entre guillemets, qui profite en ce moment dans les sondages à Jean-Luc Mélenchon. Alors, dès qu'il en a eu l'occasion dans la semaine, il a vraiment tenté de mettre en avant son programme. Hier, il a parlé de climat, de justice sociale, de démocratie, pour continuer de faire connaître ses propositions, quitte à envoyer quelques pics à Jean-Luc Mélenchon, notamment sur sa complaisance supposée avec des dictateurs. Et puis, le deuxième point important pour Yannick Jadot, c'est vraiment d'attaquer Emmanuel Macron sur son bilan écologique, montrer que pour le président de la République, le compte n'y est pas.
Ils n'ont pas investi dans les transports collectifs, dans le vélo. Eh bien, ce sont les élus écologistes qui développent les pistes cyclables et le vélo.
Anne Hidalgo, elle aussi, elle tente de limiter la casse en quelque sorte ces derniers jours.
Oui, elle tente le tout pour le tout. D'ailleurs, pour son dernier grand meeting de la campagne, c'était cette semaine au Cirque d'hiver, elle a plutôt réussi l'exercice, la maire de Paris. Il y avait plutôt de l'ambiance, un petit peu de monde. Mais c'est vrai que plus personne ne croit réellement en ses chances de victoire. Elle non plus d'ailleurs. Et elle prépare déjà la suite parce qu'elle compte peser dans l'avenir du Parti Socialiste. On l'a appris cette semaine dans la presse. Un dîner secret organisé au Sénat. Autour de la table, il y avait Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, encore Johanna Roland, la maire de Nantes, deux femmes qu'on évoque régulièrement quand on parle de l'avenir du PS. Il y avait également François Hollande et ensemble ils ont parlé de la suite. Que faire après le premier tour? Que restera-t-il du Parti Socialiste? Ça fait partie des questions qui ont animé cette dernière semaine de campagne d'Anne Hidalgo.
Autre candidat de gauche, en baisse lui aussi, hein, 2,5% d'intention de vote dans notre dernier BVA. Fabien Roussel, le communiste qui lui a participé dans ses dernières heures de campagne, à un apé Roussel à la mi-journée à Paris.
Et vous savez Julien, ces apé Roussel, c'est un petit peu la marque de fabrique du candidat communiste dans cette dernière ligne droite. Des moments un peu plus conviviaux, à son image en quelque sorte, parce qu'il faut bien le dire, Fabien Roussel, c'est un candidat qui est plutôt jovial. D'ailleurs, il en a fait un argument de sa campagne. Il aime bien le bon vin, la bonne viande. Alors ce midi, il était dans le 20e arrondissement et sur la table, entre la bouteille de vin et la baguette, il avait une salade de choux, du calamar, même un très bon gâteau au chocolat. Voilà pour le menu, vous savez tout. Fabien Roussel, qui s'est aussi un petit peu agacé contre ce fameux vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, il a même fait un peu d'humour. Il y en a marre qu'on demande aux Français de faire des barrages dès le premier tour. On n'est pas des castors. Voilà pour la petite blague. En revanche, il a dit qu'au second tour, il appellerait clairement à faire barrage à l'extrême droite. Écoutez.
Bien sûr, nous donnerons une consigne de vote. Jamais nous ne laisserons l'extrême droite mettre la main sur le pays et nous ferons tout pour l'empêcher. Notre main ne tremblera pas.
Et puis encore un petit peu plus bas dans les sondages, mais toujours mobilisé, Philippe Poutou, 1,5% dans notre dernier sondage BVA, avec un dernier meeting pour convaincre dans une demi-heure à Grenoble, où vous vous trouvez pour RTL, Serge Peillouf.
Oui, le dernier meeting de Philippe Poutou va se tenir à partir de 19h ici à Alpes Congrès, le centre des congrès de Grenoble, dans une salle qui peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Les militants locaux du NPA ont déjà posé des dizaines d'affiches devant la salle avec des inscriptions « Stoppons Macron, changeons le système » ou encore faisons taire l'extrême droite. Philippe Poutou a passé la journée à Grenoble. À 12h30, il est allé à la rencontre des étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Il a pris la parole devant 500 personnes, puis ses étudiants lui ont posé des questions sur les conditions de vie des jeunes, sur les violences sexuelles, mais aussi les violences policières. Sur ce dernier point, Philippe Poutou est resté prudent, précisant qu'il était déjà poursuivi pour des propos virulents sur le sujet. Le leader du nouveau parti capitaliste est allé ensuite soutenir des salariés de l'entreprise Thalès qui mène un mouvement social. Ce soir à Grenoble, ce sera le dernier meeting de Philippe Poutou en tant que candidat à la présidentielle, car il a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas dans 5 ans.
Merci Serge Peillot à Grenoble pour RTL. Merci à vous Thomas Després. C'était le sprint final, surtout à gauche, hein, on l'a compris, dans ces dernières heures de campagne avant le gong, la fin de la campagne. C'est à minuit. Merci à tous les deux.
Présidentielle 2022.
J-2. Allez, on va marquer une toute petite pause, les amis, dans RTL Soir. Et ensuite, on va refaire nos régions, comme chaque vendredi soir, 20 minutes près de chez vous. Avec, on va parler encore politique, une belle initiative contre l'abstention. Ça se passe à Marseille. Avec la guerre des abeilles aussi, vous allez l'entendre, c'est complètement fou à Roubaix. Et puis une recette made in Top Chef avec vue sur la Loire. A tout de suite sur RTL.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.